I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100pourchanvre.com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASUEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides, ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso, bonjour Bigos. Regardez-le, il a le petit sueur en quoi.
J'étais en mission, faisais un épisode de La Sueur en sueur, mais avec Nicole Doshi. Et on le révélera pour le 1 million d'abonnés.
Oh. C'est qui Nicole Doshi?
C'est
ce que je crois, d'accord.
You don't wanna know. Et on remercie également Julien, notre chaleureux Julien, qui a contribué.
Oui, qui est là.
He's here.
Et qui a contribué à la magnifique déco du studio. Oh, donc voilà. Alors on va parler aujourd'hui de Benoît Saint-Denis, mais avant toute chose, Road to 100 G's, vous le savez, petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. On lance le générique, Polydomso?
Générique.
Soit. Benoît Saint-Denis, on le savait, on l'avait dit, c'est un combat en short notice pour lui à l'UFC face à un client. Il y a beaucoup de choses à redire de ce combat. En tout cas, il a montré énormément de cœur, Benoît Saint-Denis.
Ah ouais.
Surtout,
trop.
J'ai envie de dire surtout que le combat n'aurait pas dû aller à la décision comme ce qui s'est passé, où Benoît Saint-Denis s'incline 29-26, malgré un point de pénalité suite à un high poke du Brésilien Dos Santos. Williams.
Ce qui fait quand même deux rounds à 18, un round à 18, un round à 9-8 du coup, et un round à 19. Donc c'est une grosse domination de Santos. C'était pas du tout un match facile. En rentrer comme ça, en arriver à l'UFC, c'est très compliqué de prendre un client comme du coup de Santos. Moi j'avais pas eu l'occasion de m'exprimer sur ce combat, mais je pensais que ça allait vraiment être ric-rac pour lui. La marche était trop haute et il n'a pas été vraiment protégé ni par l'arbitre ni par son corner, je trouve. Alors c'est peut-être une opinion qui va choquer les gens. Il y a peut-être des gens qui ont une vision un peu plus oui, il faut laisser sa chance au combattant, peut-être qu'il peut retourner. Et c'est vrai que mine de rien sur la fin du round 2, il touche quand même son adversaire, mais il prend tellement tarif, il a 25 ans et c'est dangereux de prendre autant de dégâts. Parce que il appartient à cette catégorie de combattants qui sont trop courageux.
Trop durs pour leur propre bien.
Ouais, pour leur propre santé, quoi. Parce que là, c'est. À un moment donné, le jeu était joué, quoi. Je pense qu'ça aurait été vraiment. Ça aurait été incroyable s'il retourne la situation. Mais...
Et il y a eu des moments où on y a cru, hein. C'est ça qui était fou. Il y a eu des moments où il a touché Zaleski Dos Santos. Alors, c'était pas des knockdowns, mais il touchait bien. Et clairement, Dos Santos marquait. Et c'est ça qui était ouf, c'est que. Il y a eu toute une session au moment, et là c'est un moment où on a tous pété un câble parce que là vraiment, d'ailleurs l'arbitre s'est fait virer juste après ce combat, ouais. Ce qui est quand même hallucinant et très rare. Mais en gros, il y a eu tout un moment donné pendant peut-être 2 minutes où Benoît s'est fait allumer, c'était horrible.
C'était au deuxième round, ouais.
C'était un chaos debout presque, mais c'est juste qu'il est beaucoup trop dur et au mal, donc il n'abandonnait pas, il ne tombait pas, Benoît Saint-Denis. Mais vraiment, de la part de l'arbitre, c'était n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'après, effectivement, il y a Benoît Saint-Denis qui a réussi à survivre à la tempête, et de temps en temps, il arrivait même à mettre des coups qui, oui, touchaient Zaleski Dos Santos.
Qui a aussi du tout vidé
mais c'est ça, c'est ça. Là. C'est parce qu'il ne faut pas qu'on ait une opinion biaisée, les gens peuvent se dire, ouais, il revenait. Mais c'est aussi parce que quand t'envoies plein de coups comme ça, tu te fatigues. Et il y a des moments où, Dos Santos prenait des pauses, en fait, aussi, dans ce rythme effréné de recherche du finish. Et je pense que ça donne une vision au tremplin. Je pense que ce match, plus on va le re-regarder, plus ça va être terrible. C'est pas un match où on va se dire, ah ouais, il y avait des trucs. là ça va être compliqué, tu vois, de revoir ce combat en se disant ils l'ont pas arrêté, l'arbitre était pas du tout au taquet. C'est, je pense que c'est surtout ça qui a choqué, parce qu'il y a des arbitres qui laissent longtemps avant d'arrêter. Bon, peut-être pas à ce niveau-là quand même, là c'était quand même critique, mais c'est surtout l'attitude qu'il avait. Il était pas prêt des échanges, il se souciait pas vraiment
lui,
de la situation, quoi. Et c'est vrai qu'on c'était un peu la blague, tu sais, de Rocky IV, quoi. If he dies, he dies, quoi. C'était vraiment il attendait que le mec que le mec tombe, quoi. Mais sauf qu'il allait pas tomber, Benoît Saint-Denis. Mais même avant, en fait, très honnêtement, faut pas que l'intention sur ce combat soit captée par cet événement-là. Je pense que même techniquement il y avait un problème, je pense, et on le dit avec toute la sympathie qu'on a pour Benoît Saint-Denis, évidemment, c'est, encore une fois, c'est très courageux d'affronter un mec comme ça.
Différence de gabarit énorme aussi.
Différence de gabarit, différence même au niveau de la technique, je pense. Et du coup, oui, le crochet qui passe en round 2 et qui met un peu qui annonce le début du désastre, hein, j'ai envie de dire, c'est un contre qu'il essaie de placer dès le round 1 sur les entrées un peu en blitz
de Benoît.
Et en fait, c'est le problème de Benoît, c'est qu'il a ce style un peu, tu sais, de gaucher, karaté stance un petit peu. Tu vois, il a un peu cette marque-là, où il rentre. Et là où ça a pêché, c'est qu'il avait assez de rapidité pour rentrer, mais il ressortait pas. Et il restait dans les échanges avec le menton à la fenêtre.
Ouais,
comme on dit.
C'était surtout ça.
Et c'était une question de temps. Moi, dès le premier round, on se regardait, on se disait, ah, c'est pas mal, mais faut pas qu'il reste comme ça dans les échanges avec un mec comme Dos Santos qui va le capter à un moment donné. Et c'est même pas encore le meilleur des contreurs, Dos Santos, mais c'est juste que c'est un gars, ouais. Il a trop de métiers, il a combattu de très bons strikers et tout, il sait ce qu'il fait, tu peux pas l'avoir comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est dommage, à la réflexion, je pense qu'un game plan plus grappling orienté.
Il a essayé, mais
il était un peu trop tard.
Mais il se fait choper sur les échanges debout, tu vois, parce qu'il s'obstine vraiment.
Attendez, les gars, moi, ce que je me souviens, juste, il a essayé assez tôt de mettre un takedown.
Sur le premier round, il en met un.
Ouais,
mais
voilà,
je pense que dans le début du deuxième round, il y a toute une phase debout. Après, il faudrait qu'on le revoie le combat, mais de la mémoire, de ce que je me remémore de ce combat, c'est qu'il y a toute une phase debout au deuxième round où il y a des échanges. Il touche un petit. Parce que le problème, c'est qu'il est assez athlétique et assez explosif, Benoît Saint-Denis. Donc il arrivait à toucher sur ses entrées, en fait, Dos Santos, mais après il restait dans les échanges. Et ça, c'est une règle sacro-sainte en striking, c'est soit t'es complètement à l'intérieur, soit t'es complètement à l'extérieur, tu restes pas comme ça. Enfin, surtout si t'es droit et que t'as pas de mouvement du buste, tu peux pas rester comme ça à distance de frappe. Soit tu casses et tu rentres en clinch, soit tu fais ton in and out, tu tapes et tu ressors. Mais lui, il rentrait. Il faisait ses échanges, surtout quand il se lançait en anglaise. Quand il faisait ses kicks, encore ça allait, tu vois. Mais quand il faisait ses échanges en anglaise, il restait vraiment trop en face, en fait, de Dos Santos, avec vraiment
la tête qui ne bougeait pas, quoi.
Ouais, la tête très droite et tout. Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a des niveaux dans ce sport. Et Saint-Denis, il semble avoir des facilités.
Qui est encore tellement jeune dans le sport, c'est pour ça aussi.
Ans, c'est ouais. Ça aussi. Mais tu vois, sur ses précédents combats, comme il était suffisamment explosif et véloce. Les gens se recroquillaient. Quand ils les agressaient, tout de suite, les mecs se mettaient en position défensive. Ils n'avaient pas ce savoir-faire, tu vois, de rouler avec les coups et de revenir, et de faire un retour, tu vois. Là, il est tombé sur quelqu'un qui a vu des gens très. Enfin, Dos Santos, il a combattu des mecs très athlétiques, il a combattu des mecs très, très bons techniquement. Il en a vu, tu vois. Donc, il va pas se laisser intimider par Benoît Saint-Denis. Il va attendre dans les échanges et il va le choper, tu vois. Et clairement, dès le premier round, il cherchait à placer ce crochet du bras arrière. Il y a plusieurs moments où c'est passé, mais à un cheveu, tu vois, un fifrelin. Et on se disait, ah merde, il faudrait quand même qu'il s'adapte. Et...
C'est vrai qu'on a été vraiment, pendant tout le combat, on était vraiment, vraiment tendu. Parce qu'effectivement, on se disait juste, à quel moment en fait ? À quel moment il va finir par se prendre un contre ? Et c'était horrible parce qu'effectivement, en dehors de ça, le takedown, il le met. Au sol, il arrive à avoir une petite progression, etc. Enfin, vraiment, il s'est pas non plus fait marcher dessus complètement, quoi.
Sur le premier round.
Surtout sur le premier round.
Moi, tu vois, je suis étonné de la décision des juges parce que moi, je donnais le premier round à.
C'est ça. C'est ce qu'on s'était dit.
Et on mettait pas un 18 non plus sur le troisième.
Non plus. Parce que sur le troisième, les deux sont rincés.
Sont cuits,
en fait.
Ouais.
Et donc, non, mais bon, en revanche, c'est clair que 18, voire même peut-être 17, ça m'aurait pas choqué sur le deuxième round, hein, parce que c'est. S'il n'y avait pas eu le dernier aliment sur les 30 dernières secondes. Mm-hmm. De Benoît Saint-Denis à la fin du. Enfin, de toute façon, moi, à mon sens, le deuxième round, le combat aurait dû être arrêté.
Ah, bah, vois, sans aucun doute.
C'est une anomalie que ça se soit.
Et là, ce qui est bien, c'est que tout le monde dans l'univers MMA était d'accord pour dire que le combat aurait dû être stoppé. Enfin, il n'y a personne qui n'était pas debout, je pense, devant son téléviseur ou dans la salle pour dire arrêtez le combat, en fait.
Surtout qu'en plus, à la différence de ce qu'avait fait Herb Dean lors de Calvin Kattar contre Max Holloway, on n'avait même pas l'impression que l'arbitre était sur le point d'intervenir. Là, non, c'était. normal.
Ouais, en fait, ça donnait vraiment l'impression que l'arbitre, alors je sais pas où est-ce qu'il avait fait le métier, mais ça, enfin, j'ai eu cette impression que, en gros, il considérait que tant que le mec ne tombait pas, ouais, c'était bon, en fait. Ouais, enfin, je pense qu'il a, il a pas dû capter le principe de KO debout.
Et parce que, ouais,
pas se défendre de manière intelligente.
Exactement.
Même en boxe, les combats sont arrêtés pour moins que ça. Hein. C'est-à-dire que vraiment, si tu te défends pas et que tu restes au bout de la puissance de frappe de l'adversaire et que tu prends plusieurs coups, il y a quand même des séquences très pénibles, je pense. C'est pour ça, ce match, on va pas pouvoir le re-regarder. Tu vois,
c'est trop dur.
C'est trop dur, en fait. Honnêtement, là, ça m'a fait penser, je sais pas, tu vois, ça me fait l'image que j'ai, une vieille image, ça fait un peu gros snob de la boxe, mais tu sais, Jacques Lamotta contre les cordes avec Sugar et Robinson qui lui envoie des coups, tu vois. C'était un peu l'image que j'avais.
Ouais, t'avais quoi? T'avais 4 ans à cet âge-là.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, mais oui, normalement, ça s'arrête. Mais bon, alors, c'est un peu un gambit. Ce que nous faisait justement remarquer à juste titre Julien, hein, dont la remarque était d'une grande pertinence.
Et pour une fois.
Et je rends à César ce qui appartient à César. Mais c'est que ça peut rendre service à Benoît Saint-Denis. Alors, à première vue, ça ne rend pas service du tout. Parce que déjà, tu perds de l'espérance de vie, tu perds des neurones, tu perds plein de trucs.
Le nez, probablement aussi.
Du temps aussi, mine de rien.
Et c'est ça, parce qu'avant un prochain combat, ça va être dur. Après, au niveau de l'image que tu donnes, de pas quitter, d'être tout le temps dans le game, c'est un peu comme Moutinho
ouais,
contre
Chris Moutinho contre Sean O'Malley. C'est Sean également O'Malley, quelque chose qu'avait dit Julien, d'ailleurs.
Tout à fait. Tout à
vous
fait
le connaissez pas, mais c'est presque un personnage biblique, en fait, maintenant.
et du coup, pour le public américain, mm-hmm, ça donne une image qui est très 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 valorisée, en fait. Qui est complètement contraire à l'image qu'ont habituellement les Français chez ces gers américains. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et au-delà de ça, s'il se met à corriger son style plus tard et qu'il regagne des combats, ça peut être finalement, on va dire, une expérience qui offre des perspectives à Benoît Saint-Denis. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de ses prochains combats et de comment il amorce la suite, en fait.
C'est ça, parce que là, vraiment, bah, pour continuer sur Moutinho, donc, enfin, littéralement après le combat contre Sean O'Malley, Dana White direct était en mode, enfin, il n'était que comment dire, que dithyrambe envers Chris Moutinho, en mode le mec, c'est, il y a zéro quit in him, enfin, il ne quittera jamais, c'est impossible, il n'abandonne pas, c'est un mec qui est tellement dur au mal, forcément il a sa place, c'est un guerrier. Voilà, en fait, t'as toute une ribambelle de compliments qui t'arrive. Et bon, c'est effectivement le point positif dans tout ça, c'est que là, je pense que Dana White, il n'y a pas de problème, il sait maintenant qui est Benoît Saint-Denis.
Et tout le monde sait.
Tout le monde sait, et c'est pas un petit plus. Là, c'est vraiment effectivement, selon les résultats qu'il a prochainement, là, il a marqué l'esprit de tout le monde. Maintenant, les gens qui ont regardé cette carte savent que Benoît Saint-Denis, c'est un guerrier, un spartiate, comme il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Et c'est quand même un sacré plus à l'UFC à avoir, parce que là, c'est con, mais là, au moins, sur ces deux prochains combats, je pense que là, il faudra vraiment des trucs horribles pour que l'UFC le cut, parce que là, je pense que du coup, il a vraiment, là, il a un boulevard pour que l'UFC... L'UFC n'attendra plus qu'une chose désormais, c'est de pouvoir le recomplimenter, parce que ça y est, on a le guerrier français qui est arrivé à 8-0 et qui machin, quoi.
Et puis surtout, je pense qu'ils lui donneront des match-up plus abordables. Parce que là,
oui, là, c'était en notice, il sauvait surtout de Santos.
Ouais, c'est ça.
Ouais, en plus, c'est vrai que ça joue bien aussi pour ce cher tonton Dana, parce que quand t'arrives là un peu au dernier moment pour prendre un combat que personne ne veut prendre, c'est plutôt cool. Donc ça fait beaucoup de billes en plus. Enfin, des billes en plus. Enfin, il perd quand même. Enfin, tu vois, on part d'une situation qui est quand même pas enviable, mais qui peut porter finalement ses fruits plus tard s'il arrive à convertir le truc bien sur ses
prochains combats. Comme Moutinho qui joue les sauveurs pour Sean O'Malley.
Tout à fait.
Et absolument, mais par contre, effectivement, alors pour le futur, personnellement, je sais que c'était déjà dans les cartons. Là, il l'a fait pour sauver grosso modo l'UFC. Mais déjà, il allait le faire, donc c'est pas moi qui invente le fil à couper l'eau chaude. Mais lightweight, obligatoirement. Là, quand on a vu la différence de gabarit entre
Dos Santos. Au niveau UFC.
Ouais, au niveau Dos Santos et.
Les œufs de Saint-Denis.
Ouais. C'était énorme, vraiment. À la pesée, d'abord, on l'a vu, mais même dans la cage, c'était vraiment pas la même division, quoi. C'est ça qui est encore plus impressionnant avec Benoît Saint-Denis, c'est qu'il a encaissé un mec qui est censé être de la division au-dessus, quoi.
Qui est quand même un gros striker.
En
qui
plus.
Pour être un gros striker. Et en plus, même sur les phases d'accrochage et au sol, il était, je trouve, plus puissant que. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu la sensation Khamzat Chimaev, Li Jingliang, tu vois, où tu te dis, ah merde, il y a quand même un différentiel de puissance entre les deux. Donc je me dis, en lightweight, ça peut, s'il arrive à faire le cutting et qu'il perd pas trop de puissance ou de cardio en faisant le cutting.
Et il devrait pas y avoir trop de soucis, parce que je sais qu'il est pas très lourd pour un welterweight.
Et là, ouais, mais du coup, c'est plutôt prometteur, parce que là, pour le coup, en termes de puissance en clean. On va être, enfin, je vais vous donner le fond de ma pensée. Moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer Benoît Saint-Denis, et je voudrais surtout pas que ce soit interprété comme une critique, mais je pense pas que ce soit un striker ultra sophistiqué et que ce soit vraiment son domaine. Enfin, c'est pas le truc là où il est le meilleur, tu vois. Et clairement, dans ce combat, c'est un peu ça qui l'a fait tomber face à Santos. C'est plus en grappling et en accrochage, je pense qu'il a peut-être plus de cartes à jouer. Et bon, c'est vrai que lightweight, c'est très compétitif, il y a beaucoup beaucoup de gros noms, mais avec le physique qu'il a, s'il arrive à faire le cutting et le fait que bah, s'il se fait pas mettre KO par un mec comme De Santos en welterweight, je pense qu'il y a peu de gens qui en lightweight, en tout cas dans le bas de la catégorie, je parle même pas du haut, enfin là c'est pas, on n'est pas encore dans ces discussions là, mais qui peuvent être vraiment une menace pour lui. Donc je pense que ce serait plus intéressant pour lui. Donc vraiment là, il faut juste qu'il prenne le temps. Ce serait une erreur pour lui de revenir trop tôt. Prends le temps.
L'UFC le laissera même pas revenir trop tôt.
Non, pense. Non, mais c'est surtout. Maintenant, il faut qu'il se projette. C'était très courageux. Ouais. Je pense que c'était un baptême du feu. Bon.
Ouais, c'était un moyen de rentrer à l'UFC aussi.
Absolument.
Ouais, mais c'est très très dur quand même. Hein. Comme c'est une ordalie. Hein. Tu vois, pour le coup, là, c'est vraiment très très violent comme accueil. Maintenant, ce que je disais, c'est que bon, il a connu le pire qu'il pouvait connaître à l'UFC. Ouais. Après, on verra comment ça va se passer pour lui, quoi.
Ouais.
À suivre en tout cas. On a fait le tour sur l'affaire Benoît
Saint-Denis. Effectivement dire que c'est ça qui est bien aussi, c'est que pour finir sur vraiment une note positive, à part le fait qu'il a impressionné tout le monde par son cœur, mais c'est qu'il a commencé aussi le MMA il y a tellement peu longtemps que c'est ça qui est bien. Il n'a que 25 ans. C'est-à-dire que toute la carrière de force spéciale, c'est à partir de ses 18 ans. Enfin, c'est du délire comme vie, quoi. Donc c'est ça qui est vachement bien, c'est que il a commencé le MMA que l'IA. Alors je sais plus, je crois
c'est
que
2019 pour premier combat pro.
Ouais, donc, je crois qu'il a commencé en 2017, j'espère que je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a commencé son entraînement en 2017. Et avant ça, dans les forces spéciales, comme il le dit lui-même, c'était plus un entraînement général. Enfin, il était pas genre spécialisé sport de combat dans les forces spéciales. Donc, il a commencé le MMA vraiment de manière professionnelle il y a tellement peu de temps que les progrès risquent d'être monstrueux aussi. Et c'est ça qui donne beaucoup d'espoir.
Affaire à suivre, donc pour Benoît Saint-Denis. Big shout out to my sweet pea, my sweet protein. Mon 38% sur tous mes protéines avec le glaceur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de Polydom. So, à très vite pour de nouvelles aventures. See ya very soon.
I'm fucking coming for you!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.